Je sors. Je vais dehors. Je quitte l'espace réconfortant, rassurant et confiné de mon bureau. Je m'y arrache. Je rejoins des terrains inconnus. Je ne veux pas, ou pas toujours, être séparé du monde. Ainsi, Olivia Rosenthal décrit-elle sa démarche d'écrivain dans l'ouvrage collectif « Devenir du roman ». Lorsqu'Estelle et Chloé nous ont invités à réfléchir sur la question de la visibilité des écrivains, la question donc des fameuses « sorties sur le terrain » des écrivains contemporains s'est donc imposée. Dans un premier temps, parce qu'elles font partie des lieux où l'écrivain est ainsi visible, si l'on entend « visibilité » au sens strict du terme, des lieux où l'on peut le voir, en chair et en os, et en tant qu'écrivain, et non pas en tant qu'individu, croisé accidentellement dans la rue, allant chercher son pain le matin, par exemple. L'opposition faite dans cette phrase-là par Olivia Rosenthal entre l'écriture dans son bureau, séparée du monde, et son arrachement pour rejoindre des territoires inconnus, ouvre d'emblée à tout l'imaginaire des sciences sociales et de leur histoire. Ça réveille en fait les vieilles images de l'explorateur et du cosmographe, par exemple. Ces deux entités qui étaient séparées avant que Vidal de la Blage définisse ce que doit être le terrain du géographe, par exemple. L'évocation du territoire confiné du bureau, c'est celui des cosmographes, que l'on disait reclus dans leur cabinet, et comment ne pas percevoir dans l'expression « territoires inconnus » une référence à l'inverse aux travaux des explorateurs, qui eux parcouraient le monde en vue de collecter les informations. On retrouve aussi dans ces quelques phrases la sortie du fauteuil de l'anthropologue, qui scelle ainsi l'instauration de l'enquête de terrain comme méthode propre à l'anthropologie. Ainsi se déploie, à travers cette déclaration d'Olivia Rosenthal, écrivaine, une redéfinition de l'image d'Épinal de l'écrivain, une redéfinition de sa situation sur les lieux, dans le monde, ou pour le dire autrement, sur le terrain, la notion de terrain impliquant alors la question de l'enquête ou de l'intervention. Nous y reviendrons. Visibilité donc parce que les écrivains sortent de leur bureau confiné, mais cela n'a rien de nouveau. Bon nombre de ses contemporains ont dû croiser Zola lorsqu'il menait ses enquêtes sur les beaux quartiers parisiens ou rue de la Goutte d'Or. Si nous avons souhaité aborder la question de l'écrivain sur le terrain, c'est surtout parce que cette présence semble désormais être un enjeu de visibilité publique et médiatique, on l'a vu. Non systématiquement et de faible ampleur, certes. Mais il s'agit toutefois d'analyser. On est loin de la visibilité médiatique étudiée par Nathalie Hainik concernant les people, visibilité qui serait le fruit d'une diffusion massive de l'image d'Olivia Rosenthal explorant des territoires inconnus, certes. Toutefois, de plus en plus, les politiques publiques et les institutions culturelles valorisent ces sorties de l'atelier. Valorisation financière, mais valorisation médiatique également. Dans le cadre de résidences, de rencontres, on en a un petit peu parlé, la présence de l'écrivain sur le terrain est annoncée, commentée, diffusée. Les relais dans la presse locale, sur les sites internet des institutions, etc., accroissent le capital de visibilité de l'écrivain, en annonçant par exemple que celui-ci viendra collecter les témoignages des habitants du quartier, viendra observer telle ou telle activité sur le territoire. Accroissement de capital dans l'ampleur est à nuancer, on l'a dit, mais qui n'est pas anodin pour les écrivains dominés dans le champ. Cela a été travaillé en partie, je crois, par Géraldine Blois, concernant ses réflexions sur l'ancrage local des écrivains peu connus de Rhône-Alpes comme manière d'augmenter leur visibilité littéraire. Le cas d'Olivia Rosenthal est à cet égard intéressant, que l'on pense par exemple à la valorisation de sa présence sur le terrain faite par la Société du Grand Paris, actuellement, à l'occasion du lancement du chantier du Grand Paris Express. Demain, précisément, le 4 juin, la romancière, à l'occasion du lancement du chantier, la romancière, je cite, dramaturge et résidente du Grand Paris, vous invite à un parcours avec casque à travers des textes de l'auteur, inspirés de rencontres avec des acteurs du territoire et accompagnés d'une création sonore. C'est ce qu'on trouve sur le site du Grand Paris. La double présence de l'écrivain est ici rappelée, sa présence à l'occasion du parcours de restitution, mais en amont, on rappelle également sa présence à l'occasion des rencontres avec les acteurs du territoire qu'elle a effectuées en vue de nourrir ses textes. Le rôle des politiques publiques dans l'accroissement de la visibilité des écrivains sur le terrain me semble ainsi être l'une des nouveautés majeures de notre siècle. L'écrivain contemporain sort-il plus de son bureau confiné? Cela serait difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que la valorisation de cette sortie du cabinet de l'écrivain contemporain représente un nouvel intérêt majeur pour les institutions publiques à l'ère du marketing territorial, intérêt étudié notamment par la géographe Géraldine Molina, que je cite. À l'heure où le marketing et le traitement et le travail sur l'image des territoires constituent un enjeu fort de leur gestion, la littérature se voit donc utilisée comme un instrument, comme un outil stratégique au service d'un projet politique. Bon, l'enjeu de l'instrumentalisation, dont elle fait ici mention, est une autre question. Parce que, aussi et surtout, nous avons souhaité aborder la question de l'écrivain sur le terrain parce que ce phénomène est avant tout rendu visible par les textes des écrivains eux-mêmes. Et là est peut-être l'enjeu le plus intéressant, notamment chez Olivia Rosenthal et Philippe Basset. Que ce soit dans cette littérature seconde, délicate à intégrer dans un travail de recherche, comme le mentionnaient Estelle et Chloé, les textes de Rosenthal et Vasset, dans Devenir du roman par exemple, ou dans leurs œuvres elles-mêmes, dans ces textes-là, les écrivains s'écrivent, s'exposent en tant qu'écrivains sur le terrain. Je m'étais mis dehors, littéralement, et pendant des mois, je n'ai rien écrit au propre. Je griffonnais dans le bus et le RER, ou bien accroupi dans un coin pendant mes promenades, déclare le narrateur dans Livre blanc. Ce jeu est clairement celui d'un écrivain. À de nombreuses reprises dans Un livre blanc, il s'affiche comme tel, s'inscrivant dans la filiation de Maspero, François Bon ou Jean Rollin, par exemple. Et le livre tout entier n'est que la mise en scène de ce jeu, en expédition sur les zones blanches des Carthaginiennes. C'est, je cite, « ces espaces ouverts à tous les usages et défiant les catégories du cadastre ». Mais espace qui, désigné presque rigidement par l'effet document des fameuses cartes insérées dans le texte et par les toponymes qu'elles affichent, ces espaces qui n'en restent ainsi pas moins des zones que l'on peut penser réelles. Et d'ailleurs, tout l'intérêt d'un livre blanc réside dans le fait que les espaces désignés par la carte sont réels et que seulement certaines des zones affichées en blanc échappent à l'entreprise cartographique, révélant ainsi le potentiel de mystère et d'insaisissable au sein même du réel, car c'est là le principal projet de Philippe Vasset. Il n'est point nécessaire, pour parler de présence de l'écrivain sur le terrain en littérature, que le terrain est parti lié à l'espace réel dans lequel nous vivons. Ça, c'est un fait. Cependant, ici, cette superposition presque parfaite, tout est peut-être dans le presque, entre terrain de l'écrivain, rendu visible par l'épitexte, pour reprendre la terminologie de Genette, et terrain du jeu enquêteur dans les textes, cette superposition est particulièrement intéressante lorsqu'il s'agira de penser la notion d'intervention de terrain. Cette superposition est bien sûr, par ailleurs, renforcée par les seuils, qui participent de l'ancrage des textes dans le documentaire, que l'on songe aux précisions génériques du péritexte, récits avec cartes ou reportages au pluriel pour viande froide, ou que l'on songe encore aux remerciements dont on admet généralement que l'énonciation est moins ambiguë, fruit de l'auteur en tout cas, et remerciements qui précisent, dans viande froide par exemple, les dates et les lieux de l'enquête de terrain menée par l'écrivain, qui multiplient les noms propres et les ancrages référentiels. La visibilité qui est conférée à cette présence de l'écrivain sur le terrain, grâce au texte lui-même, a alors cela de paradoxal qu'elle rend visible avant tout une présence majoritairement discrète, solitaire. Je cite Philippe Vasset, « Les rencontres étaient exceptionnelles, la plupart du temps j'étais seule, et les aires que je visitais étaient saturées d'absence et d'histoires mortes. » On peut même parler d'une présence invisible de l'écrivain qui se met dehors. Je m'abandonnais au plaisir d'être nulle part, m'imaginant pour quelques heures soustrait à l'entreprise, à l'emprise de la surveillance urbaine et savourant au milieu des ordures et des herbes folles un paradoxal sentiment d'intimité et de confort. Cette tentation de l'être nulle part, on la retrouvera sous sa forme fictionnelle dans Bandes alternées ou encore dans La Conjuration, où la communauté de conjurés qui se forme progressivement a ça de spécifique qu'elle se dissout dans la ville. On retrouve ainsi cette idée, non pas de disparaître en s'isolant ou de ne pas être, mais bien d'être nulle part, d'être non situé. Plus encore, cet être nulle part semble être la condition sine qua non de la venue de l'écriture elle-même. Alors qu'il écrit un livre, le narrateur de La Conjuration réalise que sa langue a besoin, pour se déployer, de zones d'incertitude, comme s'il fallait que je m'efface pour pouvoir reprendre la parole, comme si je n'arrivais à m'exprimer que caché, dissocié dans mon propre corps, et que le texte n'était possible que hors sol, hors limite. Écrire avait, pour moi, quelque chose à voir avec l'invisibilité. C'était disparaître pour n'être plus qu'une parole qui suinte des murs, un bourdonnement mêlé au bruit de la ville, un goût de fumée affleurant soudain sur les lèvres. Cette position proprement paratopique de l'écrivain chez Philippe Vasset se dit ainsi sous la forme d'une présence de l'écrivain résiduelle, dispersée, fusionnant avec son terrain. Elle implique à la fois un lieu de visibilité paradoxal, mais aussi un régime de visibilité paradoxal d'un écrivain dont la présence dissolue sur le terrain tend à être le terrain. Chez Philippe Vasset, ce goût pour l'invisibilité et la cachette implique alors une modalité spécifique de présence sur le terrain, une présence avant tout d'enquêteur, modalité partagée avec Olivier Rosenthal et qu'il s'agit d'analyser.
Oui, donc comme disait Mathilde, on ne peut pas dissocier la figure de l'écrivain de terrain dans sa construction au sein et en dehors de ses œuvres. Et c'est ça qui en fait l'intérêt. Cette figure, elle engage, il nous semble, une redéfinition de l'activité littéraire comme une pratique sociale, autant qu'artistique, un geste dont on ne peut dissocier sans trahir la spécificité, la trace écrite du livre, de l'environnement qui la génère, autrement dit, le texte de son contexte de production. Et cette pratique littéraire s'incarne à la fois dans l'éthos d'enquêteur qu'on peut observer chez Vasset et Rosenthal, et dans la manière dont chacun d'entre eux a contribué à se construire une posture, on revient sur ce terme clé de la journée, une posture, tant littéraire que médiatique, d'écrivain de terrain, justement. Et c'est ça dont j'aimerais parler maintenant. Alors, commençons avec l'éthos d'enquêteur. Les écrivains contemporains, dits de terrain, n'appartiennent pas à un milieu sociologique homogène. Néanmoins, on peut distinguer une tendance dominante qui tente à associer leur parcours professionnel à leur goût pour l'investigation. Et il y a deux domaines qui sont un peu surreprésentés dans ce cas ici, au sein des écrivains de terrain. Ce sont d'une part le journalisme et d'autre part la recherche universitaire. Alors côté journalisme, justement, on trouve non seulement Philippe Basset, mais aussi Jean Rollin, à des degrés divers, hein, Joyce Ormand, Emmanuel Carrère, etc. Et côté académique, on trouve, outre Olivier Rosenthal, des gens comme Bruce Bégout, par exemple, et qui peuvent, dans le cas de Bruce Bégout, continuer deux, voire trois casquettes différentes en parallèle, hein, écrivain, philosophe, essayiste, etc. En ce qui concerne Basset, Philippe Basset a travaillé, donc, comme vous le savez peut-être, pendant une dizaine d'années pour divers magazines spécialisés de géopolitique, dans des secteurs particulièrement sensibles, de l'armement, des échanges pétroliers, de l'espionnage économique, enfin de l'intelligence économique, comme on dit poliment. Quant à Olivier Rosenthal, elle est une spécialiste de littérature française du XVIe siècle, maître de conférences à Paris 8. Leur profession entre directement en consonance avec la pratique du terrain que font ces auteurs. Leurs projets littéraires et professionnels partagent en effet avec leur profession des questionnements méthodologiques, une curiosité comme moteur vraiment de leur activité, et une démarche tournée vers le dehors, plus peut-être que vers l'introspection, dont on pourrait caricaturer une certaine littérature contemporaine. On pourrait donc conclure rapidement à une sorte de prédisposition qui serait induite par leur parcours professionnel à écrire de la littérature de terrain, dans la mesure où ces écrivains posséderaient un certain éthos de chercheur, dans la lignée d'anciens journalistes. Tu as cité Zola, par exemple, ou la lignée aussi... américaine, par exemple, de Truman Capote et de la littérature documentaire américaine. Mais il n'y a pas seulement une question d'éthos qui est en jeu, il y a aussi une question de posture. Et en effet, cette prédisposition à l'écriture de terrain est aussi le fruit d'une construction par l'écrivain lui-même de son image publique. Construction aussi, évidemment, co-construite par la maison d'édition, les médias, les critiques, toute la réception. Et le parcours professionnel est invoqué régulièrement comme une clé de lecture des œuvres. Donc on peut se demander comment l'auteur et sa maison d'édition jouent avec l'horizon d'attente du lecteur, créé à travers sa biographie, à travers sa réputation. Est-ce que la lecture de l'œuvre va confirmer ou décevoir, déstabiliser les attentes qui sont induites par le fait d'écrire en tant que journaliste ou universitaire? Et cette question est particulièrement intéressante dans le cas de Philippe Basset, dont les quatrièmes de couverture mentionnent systématiquement ses activités de journaliste d'investigation. Donc je cite quelques exemples. Journaliste de formation, a étudié la géographie ainsi que la philosophie à Paris et aux États-Unis, où il a exercé dans un cabinet d'investigation. Autre couverture, Philippe Basset est rédacteur en chef de la lettre d'information Intelligence Online. Donc de telles notices nous induisent à considérer l'écriture littéraire comme une certaine transposition du travail journalistique de Basset, ce qu'elle n'est bien sûr pas, pas seulement. Et donc, on peut se demander à quel niveau pourrait s'opérer cette transposition, s'il s'agit d'un niveau de matériaux, justement, thématiques, comme y inviterait en particulier les journaux de Philippe Basset, ou bien est-ce que ce serait au niveau du savoir-faire qu'aurait acquis Basset en termes d'investigation, ou encore au niveau de son réseau de contacts et de sources qui serait susceptible de mobiliser en tant que journaliste et de réutiliser, recycler en tant qu'écrivain. Et d'autre part, évidemment, ces présentations biographiques succinctes contribuent à alimenter une certaine aura romanesque de l'auteur, dont le travail quotidien est supposé rimer avec la mise à nu de rouages d'affaires et de négociations internationales, le traitement d'informations classifiées, la mise en œuvre d'enquêtes plus ou moins risquées. Cet affichage biographique est moindre dans le cas de Olivier Rosenthal, où on peut noter plutôt au contraire un certain laconisme, voire une absence. L'affiliation universitaire est souvent passée sous silence, au profit de son seul statut d'écrivain, ce qui aussi fait sens. Donc on a ici jusque maintenant parlé du terrain comme d'une réalité tangible, dans la posture de l'écrivain, dans sa démarche documentaire, dans la visibilité qu'il y trouve. Mais, et c'est ce qui nous semble le plus intéressant, en réalité, l'adjectif documentaire soulève peut-être plus de problèmes qu'il n'en résout, en présupposant un rapport concret au terrain qui ne va pas de soi, dans le cas d'entreprise avant tout littéraire. Donc, sans aborder les grandes questions linguistiques et philosophiques de l'arbitraire du langage, etc., on voudrait ici souligner les usages, détournements et récupérations littéraires que font les écrivains de leur terrain d'enquête. Le traitement du terrain pouvant ici être comparé à celui de l'archive, par exemple, dans le cas du roman historique. Alors, donc, ce sera le moment de parler de l'appropriation littéraire du terrain d'enquête et de se demander donc, si la littérature documentaire est vraiment mimétique, et si oui, dans quel sens. Donc, de reprendre cette vieille question de la référence, de l'actualiser dans le cas de notre littérature de terrain, où la référentialité de l'enquête est loin d'aller de soi. L'écriture documentaire pratiquée par Olivia Rosenthal et Philippe Vasset nous permet de déconstruire une vision naïve de la soi-disant non-fiction, non-fiction, au profit d'une vision plus complexe du terrain, non pas le percevoir comme un donné, préalable et objectif, mais plutôt comme un espace, plus territorial chez Vasset, plus dialogique chez Rosenthal, un espace que l'humain contribue à produire, au sens où Henri Lefebvre parle de production de l'espace vécu. Donc les démarches de ces auteurs incarnent une approche plus constructiviste du terrain qui s'élabore au travers de l'interaction spatiale et sociale, d'où le rôle pratique que peut jouer l'écrivain dans ce processus. Et dans cette construction du terrain par l'écrivain, nous voulons montrer ici que la fiction occupe un rôle éminent, au même titre que l'observation ou le recueil de données. L'écrivain de terrain recourt stratégiquement à la fiction comme une forme d'écriture propice à suppléer les lacunes et les limites d'une approche objectiviste de son objet d'enquête. Donc, on observe un brouillage intéressant des régimes factuels et fictionnels. La fiction s'immisce et vient troubler le partage réel-virtuel en créant une certaine indétermination référentielle du terrain d'enquête. Chez Philippe Vasset, on a plusieurs facteurs qui contribuent à brouiller les lignes entre le factuel et le fictionnel. Je ne vais pas les détailler, mais on a par exemple le montage de texte au registre très différent dans un livre blanc, avec des fragments beaucoup plus poétiques et décontextualisés du récit principal, ou le cas de la reprise dans la conjuration d'un narrateur très proche du narrateur du livre blanc, alors que c'est étiqueté roman dans un cas et récit avec carte dans l'autre. Et avec des allusions explicites au livre blanc, dans une précédente œuvre, j'ai fait ceci. Si la dimension référentielle du terrain s'avère assez ambiguë dans l'œuvre de Vasset, l'œuvre de Rosenthal déstabilise aussi ce partage, fictif-documentaire, mais d'une toute autre manière. Elle le déstabilise en pratiquant une hybridation subtile entre ses propos et les paroles qu'elle entend sur le terrain et qu'elle recueille lors de ses entretiens. Dans Viande froide, dont on a déjà parlé, tous les chapitres, sauf le premier, sont constitués d'un entremêlement entre les propos des enquêtés et de la narratrice. On a donc affaire à une polyphonie énonciative, comme elle le dit elle-même. Il y a un montage des propos qu'elle recueille sous forme de fragments juxtaposés, non attribués, sans repère typographique qui permettrait de distinguer ou de hiérarchiser les paroles des témoins et les réflexions de l'auteur. Alors, par exemple, on peut se demander dans ces phrases-là que vous avez sous les yeux, qui viennent de « Ils ne sont pour rien dans mes larmes », qui énonce, qui formule ces phrases qui ont forme de sentence. L'injustice est moins un signe de malveillance que la trace de nos faiblesses. À 13 ans, on n'est pas déçu, on est désespéré, après c'est l'inverse. Ou encore, aimer le cinéma, c'est s'offrir le luxe de la toute-puissance. Alors, pour resituer un petit peu le contexte, Ils ne sont pour rien dans mes larmes, c'est une série d'entretiens avec lors d'une résidence à l'espace 1789 de Saint-Ouen, où Olivier Rosenthal a demandé à des gens de leur raconter un film qui aurait changé leur vie. Et elle a tressé comme ça un lien entre l'intrigue du film ou des choses qui sont parallèles et l'histoire, la vie de ces individus. Mais au fil de ces courts chapitres, on trouve comme ça, des sentences qui semblent peut-être plus émaner d'elle que des enquêtés. De même, quelle part de reconstitution et quelle part de fiction il y a dans la mise en forme du reportage? C'est une autre question qu'on peut se demander. Donc, par exemple, dans Viande froide, on alterne les passages plus narratifs et les passages avec une scansion des paroles plus poétiques, Donc voici un exemple. Ils ont échangé nos gants en toile, parfois pas très bien lavés, couverts de pourriture, de morceaux de viscères, de sang, de tripes, de poussière. Ils les ont échangés contre des gants jetables. C'était le début du sida. Ils voulaient diminuer les risques. Donc, à un premier niveau de lecture, clairement, ici, on a comme une forme de recueil de témoignages hein, d'un travailleur dans viande froide. C'est des, donc, viande froide, ça se passe au, c'était une résidence dans le cadre d'une commande du 104, le Centre culturel parisien. Et donc, elle a travaillé avec des anciens employés des pompes funèbres et aussi des ouvriers de chantier qui travaillent sur le chantier du 104. Ici, c'est clairement, ça émane d'un ancien ou d'une ancienne employée des pompes funèbres, mais cette scansion poétique en vers libre imprime un rythme particulier aux paroles recueillies et les fait entrer dans un autre registre. Enfin, un dernier exemple, ce serait l'usage très intéressant que fait Olivier Rosenthal du discours indirect libre et aussi du discours direct libre, qui crée une source d'indétermination énonciative. Qui peut parfois se résoudre à la lecture du fragment, mais pas toujours totalement. Par exemple, dans celui-ci, on peut se demander qui parle vraiment. Est-ce qu'il y a une seule, d'ailleurs, personne qui parle ? Alors, je vous le lis. « Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas savoir. Il faut le voir pour le croire. J'aurais beau vous l'expliquer, vous le décrire. Ce ne sera jamais tout à fait la même chose. Il n'y a rien de tel que l'expérience. La connaissance livresque, ça ne vaut pas le contact direct avec le réel. » Est-ce qu'il s'agit de l'auteur qui ironise hein, sur la connaissance livresque et qui reprendrait la doxa qui oppose savoir théorique et pratique ou la figure de l'auteur dans sa tour d'ivoire? Ou est-ce que c'est une personne rencontrée en entretien ou est-ce que c'est encore autre chose? Voilà. Donc il y a un vrai brouillage. La polyphonie nivelle les statuts sociaux, met en avant d'abord les mots. C'est donc un procédé assez subversif qui met à nu, qui met à plat les discours, qui les détache de la valeur légitimante conférée par la fonction sociale. On juge en tant que hein, ouvrier des pompes funèbres, professionnel, écrivain, dirigeant, immigré, et qui montre donc cette polyphonie que ces clivages ne sont que des lignes de partage possibles parmi mille autres au sein de la société, et qu'il peut être utile de les mettre entre parenthèses pour rendre visibles d'autres partages. Comme celui, par exemple, évident mais problématique, entre hommes et femmes. Donc, dans cette citation, première citation, « On aime les femmes quand elles restent à la place qu'on a prévue pour elles. » Donc, voilà. « Oser pratiquer une hybridation entre soi et l'autre, qui entremêle les voix sans les uniformiser ni en estomper les différences, c'est ça le défi auquel que se propose Rosenthal dans ses... Dans ses livres, dans ses essais tirés d'enquête, et elle le théorise dans « Devenir du roman » en disant « Leur parole deviendra mienne, que j'entrerai en elle, que je l'intégrerai à mes propres mots, on ne pourra plus savoir si c'est eux ou moi qui parlent. » Donc il s'agit bien pour Olivier Rosenthal de se décentrer, d'être dans l'interaction, un double échange, et non dans le recueil neutre d'un savoir considéré comme extérieur à soi. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça fait retour sur l'énonciatrice, avec un échange hein, entre sortie de soi et retour sur soi. Ici, par exemple, « Monsieur M est un Serbe de Bosnie, il déteste les musulmans. Il dit que les musulmans l'ont séparé de son pays, la guerre ethnique commence quand les haines individuelles rencontrent les haines collectives. Tu te dis finalement, tous les Serbes ne sont pas des tyrans nationalistes, tous les Bosniaques ne sont pas des islamistes. » On voit donc les implications esthétiques et politiques de ce que Marie-Jeanne Zenetti nomme une réversibilité du factuel et du fictionnel. Ça produit un rapport critique au terrain, une distance productive qui met tous les discours sous caution. Alors, j'aimerais maintenant rapidement... dire quelques mots du caractère très littéraire de ces enquêtes. Donc, l'écriture documentaire revendique une certaine indépendance, hein, on l'a vu, de la pratique littéraire du terrain. Elle s'affranchit également de la subordination aux approches établies, qu'il s'agisse du savoir-faire journalistique ou de la méthodologie de l'enquête de terrain propre aux sciences sociales. Parodiant l'amateurisme, cultivant leur caractère autodidacte, Rosenthal et Vasset proposent des dispositifs spécifiques d'enquête qui mettent à distance les formes conventionnelles. Donc il y a clairement, et c'est ça qui me semble intéressant, à la fois perception d'analogie avec ces dispositifs conventionnels et volonté de différenciation. différenciation dans les fins comme dans les moyens utilisés. Vassey nous prévient, dans l'avertissement de son journal d'un marchand de canons, cette série n'est pas une enquête journalistique. De son côté, Olivia Rosenthal utilise les remerciements pour assumer son hybridation des paroles en écrivant dans un texte qui s'appelle « Maison d'arrêt à Paris la Santé ». Ce texte, aux confins du document et de la fiction, a été écrit à partir d'entretiens réalisés entre mars et juillet 2008 avec des personnels et des détenus de la prison de la Santé. Tout est justement dans ce dosage, on revient dans le presque dont tu parlais tout à l'heure, hein, du document et de la fiction et du « à partir d'eux ». Mais en réalité, et c'est ce que j'aimerais montrer ici, ces enquêtes de terrain sont peut-être avant tout des enquêtes littéraires, pour deux raisons différentes selon ces deux auteurs. Chez Vassey, on a une enquête rocambolesque qui est clairement mise en œuvre, avec un net penchant pour le défi et le mystère, qu'on retrouve à la fois dans l'isotopie omniprésente de l'invisibilité, dont tu as parlé, dans le choix des lieux qu'il investit de façon privilégiée, hein, ces espaces cachés que sont les zones blanches, je développe pas, les accords secrets de réseaux de vente d'armement, etc. Et aussi dans la dramatisation de ses interventions, au sein des textes, hein, où ses narrateurs prennent des risques, et aussi de façon publique, en tant que dans sa posture publique d'auteur, où il insiste sur la coïncidence, hein, entre les mésaventures relatées dans la plupart de ses livres et sa vie personnelle. Et donc, on reconnaît dans cette vision spectaculaire de l'enquête une dimension fondamentalement romanesque, nourrie par tout un imaginaire littéraire, enfantin et populaire, qui va de Fantomas et Jules Verne à Tintin et Black et Mortimer. Et il le reconnaît volontiers. Le voile de mystère qu'un tel imaginaire romanesque jette sur le quotidien possède un enjeu très précis dans le travail littéraire de Vassey. Il alimente son écriture de terrain. Il engendre des raisons affectives et ludiques d'enquêter. Il ne saurait y avoir pour Vassey d'enquête sans mystère. Et de ce point de vue, Vassey se distingue de l'investigation de l'infraordinaire qu'on peut trouver chez d'autres écrivains contemporains, allant de Pérec à Annie Arnaud, par exemple. Il n'y a pas ce présupposé de mystère, ce besoin de mystère pour alimenter l'enquête. Si Vassey conçoit la littérature comme une plateforme d'expérience, ce ne sont pas seulement celles des personnages que le lecteur peut vivre par procuration, mais c'est d'abord les expériences de l'auteur et de ses narrateurs qui cherchent à redécouvrir le monde à travers les yeux passionnés d'un adolescent. Alors, je vais aller beaucoup plus vite sur Rosenthal. Chez Rosenthal, on a une pratique littéraire de l'enquête qui prend une forme d'enquête sur les mots des autres. Donc une enquête avant tout linguistique, verbale. Il s'agit d'explorer la matière verbale qu'elle recueille lors de ses interventions et de voir comment les mots des autres entrent en résonance avec les siens. Au lieu d'ancrer son investigation dans des repères spatiaux précis, comme chez Vassey, Olivia Rosenthal privilégie une mise à l'épreuve des idiolectes et des sociolectes. En décortiquant les paroles qu'elle recueille, son travail d'enquête la place à la charnière de l'intime et du collectif. Elle explore le rapport à la norme, par exemple, avec la maladie d'Alzheimer, On n'est pas là pour disparaître, à la mort avec les pompes funèbres, les liens entre archives personnelles et mémoire collective avec le cas de la cinéphilie dans Ils ne sont pour rien dans mes larmes. Alors, on peut distinguer deux phases dans ces enquêtes que Rosenthal nomme des architectures en parole, le prélèvement sur le terrain et le travail d'écriture et de réécriture. Je passe sur ces deux phases, on pourra y revenir si vous voulez, mais ce que j'aimerais montrer, c'est qu'il serait trompeur de penser que le travail sur le terrain, la première phase, est moins littéraire ou plus technique que la suivante, la réécriture et l'hybridation dont on a parlé. Dans les deux cas, en fait, il s'agit de se mettre à l'écoute des silences, des non-dits, des hésitations qui fissurent les discours des gens et révèlent les failles de leur architecture personnelle de parole. C'est ce qu'elle dit dans la troisième citation. « Je vais remplir les silences, raconter quelque chose qui n'a pas été dit, choisir une phrase qui aurait pu être prononcée, prolonger l'entretien, aller là où mon interlocuteur aurait voulu aller, mais n'a pas pu ou pas osé le faire. » Donc, toute la sève de l'enquête repose sur cette écoute particulière qui permet de faire résonner en soi les mots des autres. Au lieu d'être dans une quête d'authenticité littérale vis-à-vis des paroles qu'elle entend, Rosenthal conçoit l'enquête comme une manière de se montrer fidèle à la vérité d'un moment, à l'émotion provoquée par une expression, ou à la richesse polysémique d'un terme, comme le mot « trou », par exemple, au début de « viande froide ». Et de ce point de vue, il se pose la question, et c'est Mathilde qui va maintenant y répondre, du produit exact de ces enquêtes, hein, des résultats auxquels elle permet d'aboutir, des formes de savoir qu'elle met en jeu, et surtout, à travers cela, de savoir quelle forme d'impact elle peut avoir sur le terrain qu'elle se donne.
Je vais poser très rapidement la question des interventions de terrain. Si on l'a vu, la présence de l'écrivain sur le terrain se fait enquête, et qu'on a insisté sur le devenir pratique de la littérature, dans ce cadre-là, il me semble que la notion d'intervention peut alors être intéressante pour aller plus loin, pour prolonger ou brouiller, je ne sais pas, la terminologie genétienne autour des seuils, du texte et de son paratexte, et pour sortir de l'impasse texte-contexte que remet précisément en question ce que David Ruffel nomme la littérature contextuelle. En reprenant l'expression de Paul Arden, que ce dernier emprunte lui-même à Jean Swiezinski, l'art contextuel. Paul Arden définit précisément l'art contextuel comme un art d'intervention, investissant l'espace urbain ou le paysage, marqué par des esthétiques dites participatives ou actives. En parlant de littérature contextuelle, on pourrait justement affiner cette notion d'intervention que Paul Arden réserve pour la plupart du temps à des transformations en fait très concrètes de l'espace réel ou à des performances faisant leur apparition très visiblement dans l'espace public. Et donc c'est peut-être là que je vais traverser le plancher, pour reprendre l'expression de Dominique Rabaté. Bon, j'ai moins considéré qu'il fallait ici qu'il y ait une pertinence des objets pour nos questions universitaires, qu'à l'inverse, j'ai considéré que ces objets impertinents, que je vais essayer d'analyser, étaient une injonction à mettre à l'épreuve nos outils universitaires. D'où sûrement mes bafouillements. Donc, des interventions artistiques de cet ordre, art contextuel, on en trouve dans le travail d'Olivia Rosenthal. Œuvres qui investissent l'espace urbain, littérature qui s'expose, à la radio, sur scène ou sur les murs. Le travail littéraire qu'elle a mené à Bobigny avec le graphiste Pascal Bretel en est un bel exemple. J'aurais dû vous mettre des images de cela. C'est un travail d'affiches éphémères en fait, qui était accroché partout dans la ville à partir d'entretiens avec les habitants et qui avait été retravaillé, une fois de plus, par Olivia Rosenthal. C'était un bel exemple, d'abord, parce que, une fois de plus, ce travail rend doublement visible la littérature sur le terrain. Sous sa forme finale, les affiches, que les habitants croisent alors tous les jours hors du livre, sur les palissades de chantier, les abribus, les bâtiments publics, etc. Mais en creux, les affiches disent également l'enquête qui les a précédées, une fois encore. Elles rappellent que l'écrivain lui-même a arpenté la ville avec son enregistreur, et ce, par la situation d'énonciation que ces affiches mettaient en place, notamment. Comme cette phrase que vous pouvez donc imaginer, placardée sur un immense mur, « J'invente ce que vous ne me dites pas ». Cette phrase-là, c'est précisément le contrat que passe Olivia Rosenthal avec les gens qu'elle rencontre, dans « Ils ne sont pas pour rien dans mes larmes », dans « Mécanismes de survie en milieu hostile » ou encore dans « Viande froide », etc. Et c'est ce même contrat que l'on retrouve, sorte de signature presque, de griffe qu'Olivia Rosenthal inscrit de manière éphémère dans la ville elle-même. Chez Philippe Vassé, on retrouve la trace de projet d'art contextuel dans le texte d'un livre blanc lui-même, qui fait mention, par exemple, des tentatives d'aménagement de la ville par le narrateur, qui est hanté par les images de taudis et de bidonvilles, et narrateur qui alors garnit de rideaux les trous dans les murs, dépose des bibelots sur des guéridons, et qui précise avant tout ne prendre aucune photographie pour ne surtout rien fixer. Principe qui n'est donc pas sans rappeler le fonctionnement même du happening. Et d'ailleurs, il nomme ces constructions des installations, avec la pluralité de sens que l'on connaît à ce nom. Il y a également dans un livre blanc le projet dont il fait mention d'informatique diffuse, c'est-à-dire qu'il veut associer, via une liaison radio à courte portée, un texte à un lieu, et diffuser un message sur les téléphones portables de toute personne passant en proximité de l'endroit. Projet jamais réalisé, mais dont il ne désespère pas de convaincre un organisme qui travaille au développement de cette technologie. Cette insistance matinée d'humour fait ainsi de l'intervention une tentation, toujours renouvelée chez Philippe Vassé. C'est d'ailleurs ainsi qu'il la qualifie lui-même. J'avais souvent la tentation, une fois mes pages noircies, de les laisser là, au sommet des tas d'ordures. L'image des pages noircies sur le tas d'ordures témoigne avec humour de la tentation d'inscrire la littérature in situ. Tentation de, je cite, porter le texte là où il n'a aucune place, où il est, au mieux incongru, déplacé, et observer ce qui se passe. Faire, non pas du reportage, mais quelque chose qui ressemble au rebondissement des skaters, une performance limitée dans l'espace et le temps. C'est cette tentation que partagent Olivia Rosenthal et Philippe Vassé. Toutefois, et je finirai là-dessus, S'il s'agit alors de parler d'intervention, ce n'est pas parce que les pratiques réelles ou fantasmées de nos deux écrivains ont des similitudes avec l'art contextuel, parce qu'elles en prennent la forme. Cela me semble insuffisant. Je crois que l'on peut parler d'intervention plutôt parce que les pratiques littéraires d'Olivia Rosenthal et de Philippe Vasset ont un effet direct sur le terrain. Terrain littéraire, mais aussi terrain réel, puisqu'on l'a vu, malgré tout le jeu qu'on identifie, les deux tendent à se superposer dans les textes marqués par l'esthétique documentaire, et donc à se modifier de concert, redéfinissant ainsi les lignes du partage du sensible, pour reprendre l'expression consacrée de Rancière. Lorsqu'Olivier Rosenthal fait résonner dans le Nouveau 104 la performance sonore Viande froide, qui fait entendre les voix collectées, elle construit in situ une véritable architecture en parole, ainsi qu'elle la nomme. De même, pour son projet de résidence à Bobigny, sa pratique littéraire permet de comprendre que l'urbanisme d'une ville, je cite, c'est Moëlle, ne se réduit pas à ce que l'on voit, mais dépend en grande partie de la manière dont ceux qui y travaillent ou y vivent l'occupent et en parlent. Bon, cette hypothèse est un peu fragile, mais je vous la soumets. L'intervention chez Olivia Rosenthal est une intervention sur le terrain langagier, terrain réel que l'on observe, si l'on veut bien y prêter attention, diffus dans l'espace urbain, ainsi qu'elle vient de le rappeler. Son travail d'écriture, qui, je cite, vise à entrer dans la langue de l'autre, à l'investir, modifie ainsi structurellement le donné urbain. Il le met en chantier. On se rappelle d'ailleurs que dans Viande froide, la première chose qui s'offre au lecteur, ouvrant le livre, c'est précisément un ruban de chantier, versé dans le livre par un travail simplement graphique de bandes rouges et blancs qui traversent les pages. C'est cette mise en chantier des paroles que je souhaiterais nommer intervention, dans le sens où elle réagence les fondations, les murs, les palissades de paroles qui sous-tendaient le 104. Intervenir, d'ailleurs, très littéralement, c'est prendre part à une affaire en cours. C'est se loger dans quelque chose qui a déjà lieu. C'est venir inter, venir pendant, venir entre. Chez Olivia Rosenthal comme chez Philippe Vasset, la littérature est d'intervention, précisément parce qu'elle prend part à l'affaire en cours qu'elle réelle, et qu'elle vient se loger dans ses failles, ou plus précisément, dans le double fond du réel, si cher à Vasset. L'un comme l'autre restitue la part de fantasme dans les lieux, pour reprendre l'expression d'Olivia Rosenthal. Chacun de mes livres est précédé d'une enquête, entretien, recherche de documents, etc., mais dont l'enjeu n'est pas la preuve factuelle, ni même la vraisemblance, mais au contraire, la quête de zones où le réel s'affole et bafouille, expliquera Vasset dans Devenir du roman. Et si cette entreprise de Vasset dépasse le simple dévoilement des fictions qui habitent le monde réel, si cette entreprise se fait intervention, c'est parce que le livre occupe une place singulière dans sa pratique littéraire. Dès la quatrième de couverture d'un livre blanc, le lecteur est sollicité. Il est dit « Pendant un an, je suis allé visiter ces zones une par une, mais vous saurez sûrement y voir bien d'autres choses. » En fait, un livre blanc tout entier est traversé de part en part par la tentation d'une communauté. On a les invitations d'un groupe d'une dizaine de jeunes à une visite guidée sur la zone blanche d'Alfortville que fait le narrateur. On a le projet d'accompagner la publication du texte de circuits organisés, etc. Tentation traitée non sans humour par le narrateur, qui se prend même à rêver. Mieux encore, j'aurais passé le relais à d'autres qui, mieux que moi, auraient su localiser les trous des cartes dans leur région. On aurait formé des clubs et organisé des expéditions collectives, fonctionnant en petite communauté de rôdeurs. Ce fantôme trouvera sa forme développée dans La Conjuration. Le livre me semble moins être un manifeste que peut-être un appel d'air. En tout cas, il prend à partie le lecteur dans une double interrogation finale, qu'on trouve vraiment dans les derniers mots du livre. Où est votre place? Comment habiter ici? C'est là une prise à partie du lecteur, et ce lecteur ne pourra s'empêcher, s'il oublie tout à coup ce qu'on lui a appris à l'école, c'est-à-dire que le texte littéraire était autonome, ce lecteur ne pourra s'empêcher d'errer sur le site de géographie alternative, qui était un véritable prolongement du livre, mais qui est désormais fermé, ou ce lecteur ne pourra s'empêcher de partir lui-même à l'exploration des zones désormais mystérieuses, et dont il pressent le double fond, les potentialités affabulatrices. Voilà, merci.